Des images insoutenables filmées dans les abattoirs, des animaux auxquels on fait subir des traitements inacceptables dans les laboratoires, la viande rouge classée cancérogène probable pour l'homme et polluante pour la planète. Faut-il encore manger de la viande aujourd'hui? Le sujet prend de plus en plus de place dans les débats et chacun semble aujourd'hui s'interroger sur sa relation avec les produits carnés. C'est le dossier de la tête au carré dans un instant avec mes invités et j'attends bien sûr dès maintenant vos questions, vos témoignages, franceinter.fr et le mot-clé, la TAC. Le sommeil, un enjeu de santé publique de première importance et c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Oui Mathieu, c'est la grande conclusion du rapport signé de deux spécialistes français avec le think tank Terra Nova. La France a besoin de dormir mieux et sans médicaments, on en discute dans un instant.
Et c'est Céline, il a bien réveillé, qui réalise cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Est-ce qu'on doit arrêter de manger de la viande? Question posée donc dans quelques minutes à mes invités dans le dossier. La sociologue Catherine Rémy est avec nous, la philosophe Florence Burjat et la journaliste Aline Perraudin. Bonjour à tous les trois. Bienvenue Florence Burjat. Est-ce que les dernières images prises dans les abattoirs et diffusées sur le web sont en train de bousculer nos réflexions?
Oui, on a l'impression en effet qu'il y a une question de fond qui est posée et qu'on n'en est plus simplement à s'interroger sur la manière d'améliorer les choses, mais vraiment de façon plus radicale, faut-il continuer à manger les animaux?
Catherine Rémy, la mise à mort des animaux, justement, c'est aussi une routine pour des hommes et des femmes dont c'est le métier. C'est ce quotidien-là aussi qui vous intéresse?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu l'occasion donc de mener une enquête dans les abattoirs et j'ai essayé de comprendre ce qu'était ce métier de tueur d'animaux à la chaîne. C'est effectivement une question importante.
On va en parler avec vous bien sûr, Aline Perraudin. Vous avez testé 100 jours sans viande, malgré votre goût immodéré pour la blanquette de veau et le filet mignon. Alors, facile de lâcher le steak?
En fait, plus facile qu'on ne le pense, ouais. Parce que déjà on est beaucoup plus à l'aise avec son assiette, on a moins mauvaise conscience.
Ouais. Et vous poursuivez toujours aujourd'hui?
Oui, je suis bien allée au-delà des 100 jours.
Bon, on se retrouve pour en parler donc dans quelques minutes avec les messages des auditeurs, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Un Français sur cinq a des problèmes de sommeil et nombreux sont ceux qui les négligent. Ouvrir les yeux sur le sommeil, c'est à la une de la science aujourd'hui. Voilà, et quasiment à l'heure de la sieste, une petite berceuse de Brahms. Bonjour Damien Léger.
Bonjour.
Vous êtes responsable du centre du sommeil à l'Hôtel Dieu à Paris et vous signez avec le professeur Jean-Pierre Giordanella et le think tank Terra Nova ce rapport « Retrouver le sommeil, une affaire publique ». Alors c'est pas la première fois que vous venez à ce micro pour déplorer la qualité de nos nuits. Qu'entendez-vous cette fois-ci par ce sous-titre « Une affaire publique » Le sommeil, c'est une véritable question politique?
Oui, souvent quand on parle du sommeil avec des décideurs, ils ont tendance à nous dire finalement c'est quelque chose de très privé. Et en effet, parce que c'est très intime le sommeil, on dort tout seul, à deux, mais ça ne concerne pas les autres. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de nos nuits concernent justement les politiques publiques, en particulier autour de l'environnement, du travail de nuit, de l'éducation, des transports. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu donner cette orientation d'un débat public autour de la question du sommeil et de la privation de sommeil.
Quels sont les principaux indicateurs de la mauvaise qualité du sommeil des Français?
Alors c'est surtout la quantité qui est perturbée. En fait, on se rend compte avec les enquêtes de l'Institut du Sommeil depuis plusieurs années que de plus en plus de Français dorment moins de 6 heures par 24 heures. Et en dessous de 6 heures, on sait que c'est associé à un plus gros risque d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer, d'accidents de la route. Et donc en effet, c'est cette diminution de nos nuits qui est surtout un signe d'évolution négative.
Vous citez également les nouvelles technologies.
Alors les nouvelles technologies participent à cette diminution du temps de sommeil. Il y a deux facteurs principaux, professionnels, c'est-à-dire travail de nuit, horaire décalé, temps de transport, parce qu'on habite de plus en plus loin de notre lieu de travail. Et puis également les nouvelles technologies, c'est-à-dire avant il y avait des signaux, même à la radio et à la télé, c'est-à-dire on nous disait c'est l'heure de se coucher, il y a des petites musiques, et maintenant c'est plus du tout l'heure.
On est libre, chacun décide. On fait ce qu'on veut, et à toute heure du jour et de la nuit. Juste sur le nombre d'heures perdues de sommeil, ça concerne toutes les tranches d'âge de la population?
Oui, complètement. Alors plutôt quand même les jeunes adultes et les professionnels, mais on se rend compte que même chez les personnes âgées, de plus en plus de personnes âgées se couchent de plus en plus tard avec les nouvelles technologies, sans pour autant se lever beaucoup plus tard.
Est-ce que les solutions que propose la médecine aux personnes qui souffrent du sommeil sont les bonnes aujourd'hui?
Alors actuellement, bon, le recours est beaucoup vers les somnifères, et donc les somnifères, ben, c'est une solution qui n'en est pas une, parce que effectivement, ça peut aider à passer une période difficile, mais sur le long terme, on voit que les effets des somnifères sont plutôt négatifs.
Et pourtant, on voit des personnes qui en prennent quotidiennement. Hein.
Complètement, il y en a qui en prennent quotidiennement depuis des années, et en fait, ils n'ont pas beaucoup d'alternatives, puisque ce qui est proposé par ailleurs est souvent d'ordre un petit peu comportemental et pas pris en charge par la sécurité sociale, avec des réseaux de soins qui ne sont pas forcément très clairs.
Les effets secondaires, c'est quoi pour les somnifères?
Les effets secondaires sont essentiellement des troubles de mémoire à court terme, et puis une accoutumance, une incapacité à pouvoir arrêter.
Quels sont les cas où les somnifères sont la bonne solution?
Alors par exemple, lors d'un événement privé, un décès, quelque chose de grave dans le travail, une autre maladie importante, eh bien ça peut être utile quand même à certains moments de prendre des somnifères, parce qu'à ce moment-là, on n'arrive plus du tout à dormir.
Ouais, comment on fait alors si on choisit de ne pas prendre de médicaments, Daniel Léger?
Alors, d'une part, l'environnement est très important et souvent sous-estimé. C'est vrai que pour bien dormir, eh bien, il faut avoir quand même une chambre qui soit à la fois calme, protégée de la lumière, avec une température correcte, l'exercice physique, une bonne nutrition, tout ça contribue quand même à un meilleur sommeil. Et par ailleurs, sur le plan de vraiment la thérapie de l'insomnie, eh bien, il y a toutes les thérapies cognitives et comportementales qui ont montré effectivement leur efficacité, mais qui demandent un engagement assez important, à la fois de la part de la personne qui est insomniaque et puis du thérapeute, et donc qui n'est pas facile à établir et à prendre en charge.
C'est une société de personnes somnolentes et fatiguées que vous décrivez dans ce rapport. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en lisant.
Une sorte de confusion, effectivement, d'entre qu'est-ce qu'est la fatigue, qu'est-ce qu'est la somnolence. Pas mal de gens sont un peu au radar. Hein, on le voit aussi bien dans la rue que sur en conduisant. Et malheureusement, cette confusion, elle est liée souvent à la privation de sommeil. C'est-à-dire, si vous êtes privé de sommeil de 2-3 heures par rapport à vos besoins, bien, vous avez une capacité à aborder les choses du quotidien qui sont très mauvaises et très confuse.
Annine Perraudin, est-ce qu'en arrêtant la viande, vous avez constaté un changement dans votre qualité de sommeil? Alors vraiment, je vous pose la question, c'est peut-être totalement idiot, mais excusez-moi, j'ai envie de vous la poser quand même.
Pas du tout, en fait, je dors très très bien, donc
naturellement.
Naturellement très bien.
Bon, alors peut-être Florence Burga?
Alors moi, j'ai pas vu de lien, j'ai très très
mal. Parce que vous
dormi.
Avez été insomniaque.
Oui,
hein.
J'ai été insomniaque pendant une bonne vingtaine d'années. Et ouais. Voilà. Alors, en tout cas, on peut dire que tout ce qui participe à la cohérence interne des individus nous met dans un meilleur état. Voilà. Mais ouais. Je n'ai pas perçu de lien. Non.
Catherine Rémy, à l'inverse, une enquête dans les abattoirs, ça fait faire des cauchemars la nuit.
Tout à fait. Ça fait faire des cauchemars.
J'imagine.
Et pas seulement aux sociologues, à tous les gens qui y travaillent.
La solution maintenant, c'est une réaction des pouvoirs publics.
Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de propositions qui sont faites par l'intermédiaire de ce rapport de Terra Nova dans différents domaines. Le domaine de l'environnement, par exemple, pourquoi toujours augmenter les lumières dans les centres-villes sur le plan du travail de nuit, essayer de mieux préparer la prévention médicale des travailleurs de nuit, sur le plan de la prise en charge des adolescents et des enfants, de leur donner une certaine éducation sur le sommeil en classe. Et donc voilà, je pense que ces propositions, elles sont faites effectivement pour réfléchir.
Ouais. Vous n'êtes pas un peu attristé, voire consterné parfois du fait qu'on ignore vraiment l'importance du sommeil? On le redit sans arrêt, mais c'est absolument capital pour la vie de tous les jours, physique et psychique.
Non, je pense que dès lors que quelqu'un passe une bonne nuit, tout d'un coup, il se rend compte de ce que c'est que
de vraiment bien dormir,
du sommeil. Donc en fait, je suis assez optimiste parce que je crois que...
Et ça coûte cher pour la société aussi. Ça coûte cher aussi pour la société d'avoir des mauvais dormeurs.
Ça coûte cher pour la société, tout à fait, oui, parce que bon, il y a le risque d'absentéisme, d'accident qui est lié à ce mauvais sommeil.
Chez soi, on peut agir. On ferme les volets correctement, on limite le bruit, on peut agir chez soi directement.
Complètement, et déjà en parler les uns avec les autres, c'est important, parce qu'on ne sait pas toujours que ben, rien qu'en parlant avec ses voisins, on peut essayer de trouver quand même des heures de sommeil un peu communes.
Voilà, et on évite de vivre avec un ronfleur ou une ronfleuse, de préférence, ça permet de mieux dormir la nuit. Témoignage personnel. Merci beaucoup Damien Léger pour votre venue. Ce rapport complet, Retrouver le sommeil, une affaire publique, avec toutes les propositions que vous faites pour faire bouger les choses, est à lire sur le site de Terra Nova. Il est en lien sur La Tête au Carré. Axel.
Et on lit après une bonne sieste.
Voilà, merci beaucoup.
Merci.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la fessée qui refait parler d'elle, les études parues aux États-Unis cette semaine confirment les conséquences néfastes de cette pratique sur la stabilité mentale des enfants qui développeraient des désordres mentaux et des comportements antisociaux. Ce type d'étude a été largement critiqué par le passé pour son incapacité à faire une véritable différence entre une fessée et d'autres formes plus graves de maltraitance physique. C'est pour cette raison que le docteur Elisabeth Gershoff, qui signe ce nouveau papier, a mis tous ses efforts à différencier identifier ces deux aspects. Selon elle, les conséquences de la fessée sont les mêmes que celles des autres formes de maltraitance, mais simplement à un degré moindre. La batterie de demain, inventée par hasard en Californie, la Tesar de Mia Le Tai, vient de découvrir un moyen de manipuler facilement des nanofils d'or, porteurs d'espoir pour leur grande conductivité, mais presque impossible à utiliser compte tenu de leur extrême fragilité. Sa chance et sa découverte auront été de ne pas se laver les mains entre deux expériences. En manipulant les mains maculées d'un gel de plexiglas, elle a découvert qu'une fois enrobée de ce produit, les nanofils d'or devenaient bien plus faciles à manipuler. La batterie qui découle de sa mésaventure promet de tenir 200 000 cycles de charge, là où les batteries actuelles n'en supportent que 7 000. Et puis les militaires américains et le projet Maglev viennent de battre le record du monde des traîneaux à sustentation magnétique. Propulsés par 4 fusées sur une rampe de 640 mètres de long, le bolide a atteint en quelques secondes les 1018 km par heure. Le secret de ce record est d'avoir réussi à supprimer quasiment tous les frottements entre la rampe et le traîneau grâce à des aimants supraconducteurs refroidis à moins 269 degrés. Les ingénieurs ne comptent pas en rester là. Le but ultime du programme étant d'atteindre Mach 10, 10 fois la vitesse du son, soit plus de 12 000 km heure. La vidéo de ce record est à voir sur la page Facebook de La Tête au Carré dès maintenant. Faut-il manger de la viande ? Question posée dans le dossier dans un instant. A19 avec Steely Dan à l'instant sur France Inter.
Voilà les côtes de peur.
Bah moi je mange pas de viande.
Ah bon?
Ouais. Tu n'aimes pas la viande?
Non, j'en prends pas. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas un problème.
Non,
oh,
tu manges pas de viande.
Non.
Ah bon?
Mais tu fallait nous le dire, hein.
Bah ouais, on pourra faire autre chose.
Non, mais jamais tu manges de viande?
Non, jamais.
Et au niveau de l'organisme,
tout
pas de problème?
Bien.
Tout va bien?
Ouais. Ouais. Non, je me porte bien. Mais chez moi, je mange des céréales, je mange des... Je me fais des trucs bien.
Des laitages, même.
Ouais, le laitage, ouais.
Du lait.
Ouais, du lait, des amandes, des trucs comme ça. Il n'y a pas besoin de viande, franchement. Bah, c'est des bêtes, tu vois. Moi, je trouve qu'il ne faut pas... Enfin, c'est surtout les bêtes qu'on le sent rouge, quoi.
Alors finalement, on te présente une côte de porc, là, comme ça, et toi, tu vois l'animal, toi.
Mais Delphine, t'aimes bien le vert? La salade, par exemple, quand tu la sors du jardin, elle est vivante, mais après, elle se flétrit, donc elle est morte. Ouais, mais moi, je vois pas ça pareil.
La Tête au Carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et c'était à l'instant un extrait du film Le Rayon Vert, Éric Rohmer, en 1986, pour illustrer cette question, est-ce qu'on doit arrêter de consommer de la viande? Il semblera en tout cas que depuis quelque temps, il se passe quelque chose autour de notre relation avec les animaux, à la lumière d'abord de l'actualité, dans les abattoirs ou autour du réchauffement climatique. Cette question semble de moins en moins futile et se pose aujourd'hui largement au-delà de pratiques marginales. Dossier donc de l'émission avec mes invités pour en parler. Catherine Rémy, donc vous êtes sociologue au CNRS, oui. Et vous avez mené une enquête ethnographique dans des abattoirs. C'est l'objet de votre ouvrage La fin des bêtes, ethnographie de la mise à mort des animaux, qui est publié chez Economica en 2009. Florence Burga, vous êtes philosophe, directrice de recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, et vous êtes auteur avec Jean-Pierre Marguenot et Jacques Leroy du livre Le droit animalier, c'est aux presses universitaires de France. Et puis Aline Perraudin, vous êtes directrice de la rédaction de Santé Magazine, et vous publiez 100 jours sans viande aux éditions Flammarion. Voilà les messages qui arrivent déjà avec les témoignages, les questions des auditeurs. Alors c'est vrai qu'il y a eu ces dernières images prises dans les abattoirs, hein, qui n'en finissent pas de faire parler d'elle, en suscitant beaucoup d'indignation. D'ailleurs, l'Assemblée nationale auditionne à partir d'aujourd'hui l'association L214 à l'origine des images, avant d'interroger demain les directeurs des abattoirs de Mauléon dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie. Est-ce que Catherine Rémy, vous avez le sentiment que les choses commencent vraiment à bouger, que de plus en plus de personnes s'interrogent sur leur rapport à la viande?
Je crois que tout à fait. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, un phénomène vraiment qui prend de l'ampleur. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai travaillé sur les abattoirs il y a 10 ans. J'ai mené, oui, une enquête il y a 10 ans. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, personne ne s'intéressait à cette question. Et même quand je disais que, voilà, moi, j'allais faire des enquêtes, les gens se disaient, mais quel intérêt ça peut avoir? Et effectivement, aujourd'hui, le débat a totalement changé. C'est complètement transformé.
Oui.
Je trouve que c'est une bonne chose.
Ouais, ce qui change avant tout, c'est qu'on cachait jusqu'alors les, exactement, pratiques. Et là, tout d'un coup, elles sont révélées au grand jour. Et
exactement,
ça change tout.
Exactement. Parce qu'il faut savoir que les abattoirs sont issus d'un processus d'occultation qui a commencé donc au 19e siècle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a tout un débat dans la société autour à la fois de la pollution que constitue le sang des animaux dans les villes, parce que jusqu'à ce moment-là, oui, on abat les animaux au grand jour dans les villes. Donc il y a un souci hygiéniste, mais il y a aussi un questionnement moral qui émerge, parce que de nombreuses voix s'élèvent pour dire que ce spectacle de la mise à mort des animaux est mauvais pour l'homme et rendrait violent.
Hein, donc, ça c'est au 19e, on commence déjà à se dire ça.
Tout à fait, au 19e siècle. Ouais. Et donc ça va être un processus très lent, hein, ça va prendre des années et des années, mais petit à petit les abattoirs se mettent en place pour cacher cette mise à mort des animaux, pour qu'elle ne soit plus visible et pour qu'elle ne pollue plus en quelque sorte les relations entre les hommes.
Ouais, donc là il y a un petit changement évidemment de situation,
hein, tout à fait.
On voit ces images. Aline Perraudin, vous le disiez tout à l'heure, c'est la mauvaise conscience qui vous a donné envie de vous passez de viande pendant 100 jours, voire au-delà, puisque maintenant c'est devenu une pratique pour vous.
Oui, et bien avant même les images d'abattoirs, les dernières, parce qu'il y a eu aussi des livres, faut-il tuer les animaux? Et en fait, moi, ce qui m'a donné envie d'arrêter, c'est pas des images d'animaux abattus, mais des images d'animaux bien vivants. Je le raconte sur une aire d'autoroute des vaches et qui étaient transportées certainement vers un abattoir. Et j'ai eu un déclic parce que depuis très longtemps, je crois que c'est un long cheminement, l'arrêt de la viande, et il n'est pas forcément brutal. Ça a été la vache folle et ça a été tous les scandales de la viande qui ont montré la filière viande et la façon dont on chosifiait les animaux, dont on les considérait plus comme des êtres vivants, dont on respectait plus non plus leurs besoins physiologiques dans les élevages et pas uniquement l'abattoir. Aujourd'hui, l'abattoir, bien sûr, c'est terrible, mais on peut aussi imaginer que tuer un animal par saignée, ça n'a jamais été doux.
Le statut de l'animal, Florence Burga, change aussi. Hein. On voit justement que l'animal n'est plus un objet.
Alors, le statut de l'animal change lentement. Il change parce qu'on peut constater une sorte de contradiction qui s'approfondit dans le droit. Il y a eu donc cette réforme en février 2015, oui, dans le Code civil qui énonce maintenant.
Hein.
Voilà. Auparavant, l'animal était défini uniquement par son utilité. Et là, le législateur a pris en compte sa qualité intrinsèque. Et donc, d'un côté, on voit le législateur affirmer la qualité de sensibilité, le fait que les animaux sont sensibles à la douleur, mais aussi à la souffrance, à la détresse et l'angoisse. On a ça dans les textes européens, transcrits en droit français. Et dans le même temps, il y a donc ce régime des choses destructibles et le fait que le législateur voue à la violence de façon massive les animaux. Donc là, nous arrivons, je crois, au pied du mur de cette contradiction.
Oui, et on voit un mouvement de fond, au fond, hein, qui est aussi en train d'être enclenché.
Oui, oui.
Avec donc la suite donnée par ces images.
Oui, je crois que, comme vous le disiez tout à l'heure, bien sûr, il y avait les livres, il y a eu des témoignages, mais jamais, il y a eu quelques reportages à la télévision, mais jamais il y avait eu une fenêtre aussi largement ouverte à un nombre de gens aussi important, pour voir ce qui se passe donc derrière les murs de ces lieux clos qui ont été là, comme l'a dit Catherine Rémy, en effet, pour cacher la mise à mort.
Et aussi beaucoup d'enquêtes sur l'élevage industriel télévision qu'on ne voyait pas avant. On n'imaginait pas, on avait une image, une vision de la ferme des animaux où on voyait les vaches batifolant, les cochons, on n'imaginait pas leurs conditions de vie par exemple. Et ça aussi je crois que ça
participe. Oui, je crois que c'est depuis la vache folle que du coup les conditions d'élevage ont été montrées.
Ouais, il y a ce message de Patricia qui nous dit ceci, c'est de manger de la viande cuite qui a permis à l'homme de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je mange de la viande, mais je suis totalement contre la maltraitance animale sous quelque forme que ce soit. Il y a beaucoup d'auditeurs évidemment qui vont écrire en ce sens. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Alors, Aline Perraudin.
Un fait historique n'est pas un argument pour continuer aujourd'hui. Quand on parle de la taille du cerveau, effectivement.
Sur l'évolution humaine.
Que ce sont des hypothèses.
Ce sont des hypothèses
des paléoanthropologues.
Pas forcément envie que l'homme du paléolithique se comporte de la même, qu'on agisse sur tous les plans de la même façon qu'hier. Donc c'est un fait historique, peut-être probable, mais c'est pas forcément un argument pour continuer aujourd'hui.
Catherine Rémy. Est-ce qu'on peut manger de la viande sans faire mal à l'animal qu'on mange?
C'est exactement la question que j'allais poser. C'est-à-dire que cette viande, elle est issue, malheureusement aujourd'hui, dans nos dispositifs tels qu'ils existent, d'une souffrance animale.
Il n'y a plus d'élevage artisanaux aujourd'hui, ça n'existe plus?
Si, ça existe encore. Mais le modèle dominant était quand même l'intensification. Et au niveau des abattoirs que moi je connais mieux, ce sont des abattoirs industriels, donc des gros abattoirs où on va tuer en quantité industrielle les animaux.
Je crois que la viande, effectivement heureuse, c'est quand même plus une promesse, parce que je regardais des chiffres sur l'abattage des bêtes. Les bêtes labellisées, bio, label rouge, AOP, c'est 5%, 3% des bovins, 5% des porcins et 16% des ovins. Donc quand même, la grosse majorité des bêtes abattues en France viennent de la filière intensive.
Florence Burga, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette auditrice qui aime la viande et qui a envie de continuer à en manger? On peut la comprendre.
Oui, mais c'est vrai que nous tous ici, nous pouvons la comprendre parce que nous avons été des carnivores, voilà. Certains d'entre nous peut-être le sont encore. Je crois ce qu'il faut bien dire, c'est que bien sûr, si on veut manger un animal, il faut le tuer. Quand on regarde les pratiques anciennes de l'élevage, parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur le passé, les pratiques sont les mêmes que celles de l'élevage industriel, en fait. La contention, l'enfermement, des animaux qui sont aveuglés, dont on crève les yeux pour qu'ils n'aient pas accès à la lumière, le gavage, la castration, la séparation de la mère et des petits. Donc il faut bien voir que l'élevage, c'est tout ça. Bien sûr, le tournant industriel a appliqué ces méthodes à un nombre beaucoup plus grand d'animaux, a sélectionné par les outils génétiques, mais l'élevage est toujours tributaire de ces pratiques.
On va écouter la voix de la comédienne Hélène de Fougerolles, qui se faisait justement le porte-parole de l'association L214.
Je suis Hélène de Fougerolles. Je vous parle au nom de l'association L214. Avez-vous déjà pensé à la provenance de la viande dans votre assiette? Avez-vous déjà visité un abattoir? Les moutons nouent entre eux des liens extrêmement forts. Ils sont tués à la chaîne, en pleine conscience. Leur dernière vision avant la mort, l'enfer d'une salle où sont suspendus leurs compagnons en train de se vider de leur sang ou d'être découpés. Les vaches, les taureaux et les veaux, à l'abattoir d'Alès, le cauchemar c'est aussi pour eux. Tout le poids de leur corps est supporté par une patte. Ils perdent la vie, submergés par la douleur et la détresse. Comme pour les chevaux, certains sont assommés au pistolet à tige perforante. Et comme pour les chevaux, certains retrouvent la sensibilité. Ils sentent la lame du couteau, le sang coule, leur sang. D'autres sont égorgés en pleine conscience. Un massacre habituellement caché derrière les murs des abattoirs.
Catherine Rémy, un commentaire sur ce que décrit Hélène de Fougerolles là, dans ce clip pour L214. C'est exactement ce que vous avez observé dans les abattoirs?
Oui, moi, ce que j'ai observé dans les abattoirs... alors, j'y suis allée avec... en ayant lu les textes qui existaient sur cet endroit et j'avais lu la réglementation et selon la réglementation, on doit tuer de manière humanitaire les animaux, c'est-à-dire qu'on les insensibilise. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire que dans les textes qui ont été écrits sur les abattoirs pour essayer de réformer cet endroit, il y avait l'idée qu'on allait transformer les ouvriers d'abattoir en bonnes euthanasistes compatissants. Donc moi, une des questions de mes questions d'enquête, c'était au fond, est-ce que la compassion pouvait émerger dans un abattoir ?
Il y a pas, c'est pas le cas.
Hein. Et ben, ce n'est pas le cas.
C'est ce que voilà. Vous dites. Il n'y a pas de compassion de la part des ouvriers pour les animaux.
Donc, mais si on lisait les textes, on pouvait se dire, peut-être qu'apparemment cette compassion peut émerger dans le dispositif. Il y a une réglementation, etc. Et le résultat de mon enquête, c'est que non, la compassion ne peut pas émerger. Et bien au contraire, la compassion bloque l'activité. Parce que j'ai été la témoin d'un moment où un des ouvriers d'abattoir a refusé en fait d'abattre des chevaux qui arrivaient à l'abattoir, qui s'est retourné vers moi et qui m'a dit « ça je ne peux pas le faire parce que moi j'ai des chevaux à la maison et je ne supporte pas et donc je ne le fais pas ». Et ce moment a été très fort parce que du coup, les autres face à lui, les autres ouvriers d'abattoir, se sont radicalisés. Ils ont dit « mais non, nous on le fait ». Et là, il y a la violence qui a émergé, il y a même eu de la provocation, une sorte de plaisir à tuer qui s'est exprimé. Mais ce que moi, ça m'a appris en tant que sociologue, c'est que ce discours compassionnel, lorsqu'il émergeait dans la situation et dans la bouche d'un ouvrier d'abattoir, hein, pas dans la bouche de n'importe qui, de quelqu'un qui a l'habitude, eh bien, ça l'empêchait de continuer à tuer les animaux. Ouais. Donc il y a bien une, pour moi, en tout cas, une impossibilité de cette
avec le problème de la compassion. Le problème de l'étourdissement, parce qu'on a vu également sur les images que les animaux n'étaient pas tous étourdis avant de passer sous le couteau de...
Il faut bien comprendre que les ouvriers d'abattoir sont soumis à des cadences très fortes. Ils veulent aller vite, ils veulent faire bien et vite, et que ce geste d'insensibilisation ralentit l'activité et que très souvent, il ne va pas être bien fait.
Allez, deux messages de sceptiques, on va dire. Béatrice nous dit ceci. Si on arrêtait toutes ces injonctions, ne mangez plus de viande, ne mangez plus de gluten, ne buvez pas de lait, j'en passe, arrêtons ces diktats, mangeons de tout raisonnablement. Florence Burga.
Alors, là, c'est une question qui concerne la nutrition, la diététique, et qui n'est pas notre question aujourd'hui, je crois.
Donc, vous bottez en touche. Qui veut répondre quand même à cette auditrice, Aline Perraudin?
Oui, je crois qu'il n'y a pas d'injonction ou d'imposition de critères moraux. Après, c'est par exemple dans le cas de mon témoignage, c'est que vraiment le plaisir gustatif l'a pas emporté sur ma mauvaise conscience de manger des animaux. Mais je crois que c'est vraiment chacun son âme et conscience. Après, quand on pense son assiette, soit on continue, soit on tend vers un végétarisme. Mais chacun est libre.
Xavier nous dit, les végétaux ressentent-ils de la souffrance? Si oui, qu'est-ce qui justifie aux yeux des végétariens de refuser de manger de la viande, mais d'accepter de manger des végétaux pour coopérer une différence entre animaux et végétaux?
Le cri de la carotte, franchement...
Voilà, référence à la salade verte d'Éric Romer tout à l'heure, Florence
Burga. Oui, il y a beaucoup d'éléments scientifiques qui permettent d'opérer la ligne de partage, évidemment, entre les végétaux et les animaux, le système nerveux centralisé, etc. Et puis, bien sûr, des éléments, je dirais, comportementaux. On voit très très bien... je crois que c'est de la mauvaise foi de dire que probablement on est dans le même cas de figure. L'animal réagit, il se comporte, il répond. Qu'il y ait des systèmes de communication chimique chez les plantes, personne ne le nie. Mais
Donc vous confirmez que la salade verte ne souffre pas?
Oui, je pense qu'il y a une grande distinction évidemment entre le monde des végétaux et le monde des animaux.
Et c'est important de le préciser dans cette tête au carré avec d'autres messages pour vous dans un instant. Franceinter.fr.
Qui coule sur ma fenêtre, qu'as-tu vu du monde, qu'as-tu vu de la fête cette fois? Elle défile les secondes dans ce manège de bois. Il y a des gens qui tombent et d'autres qui ont froid, je crois. Thank you. J'ai vu dans la rivière couler des galets plats, des pierres toutes rondes et même la terre parfois se noie. Je nage dans une eau sombre où il y a longtemps déjà ont coulé les décombres d'un vieux navire de bois.
Sombre, Émilie Loiseau.
La tête carrée sur France Inter.
Mes invités, la sociologue Catherine Rémy, la philosophe Florence Burga et Aline Perraudin avec ce livre 100 jours sans viande. Catherine Rémy pour cette ethnographie de la mise à mort des animaux. Donc c'était en 2009. Qu'est-ce qui a été le point de départ pour vous de cette enquête?
En fait, le point de départ, c'était une réflexion, un intérêt pour cette question animale et surtout essayer de comprendre comment travailler, comment fonctionner finalement un lieu tel que l'abattoir où, comme je disais tout à l'heure, on a à la fois eu un processus d'occultation, c'est-à-dire c'est un espace caché, et en même temps où on a vu quelque chose d'assez fou se mettre en place, c'est-à-dire l'industrialisation de la mise à mort. Donc ma question c'était ça, comment on fait pour vivre finalement ce métier.
Il y a des termes très forts parce que vous dites que c'est l'apparition du métier de tueur à la chaîne, hein. C'est ça qui vous a interrogé aussi. Hein.
Alors,
c'est très violent d'ailleurs pour les personnes qui travaillent dans
tout
ce
à
type
fait.
D'endroit.
Alors, si je dis tueur, c'est parce que c'est le nom que se donnent les personnes eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils s'appellent en interne. Hein. Donc, c'est pas moi qui ai choisi de les appeler tueurs, ils s'appellent
mais
comme
c'est
ça.
Une violence qu'ils donnent à leur propre fonction, au fond.
Tout à fait. Je pense que c'est une manière de rappeler que ce qu'ils font n'est absolument pas banal et qu'il y a quelque chose de très fort et de très difficile.
Ouais. Aline Perraudin.
Ce week-end, je lisais un témoignage à l'abattoir de quelqu'un qui travaille justement dans un abattoir. Il parle de tuerie. Il dit « je vais à la tuerie ».
Est-ce que ces personnes travaillent longtemps dans ce type de lieu? Est-ce qu'on peut tenir longtemps?
Alors,
il a tenu 25 ans, par exemple, ce monsieur.
Il y a de tout. Il y a du turnover. Il y a des gens qui vont rester quelques mois et qui ne vont pas supporter. Et puis, il y a des gens qui restent 20 ans, 30 ans.
Florence Burga, vous êtes petite fille d'éleveur?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Ouais.
Donc, on a toujours beaucoup mangé de viande chez vous, j'imagine.
Oui, c'est vrai que moi, j'ai vécu dans un environnement où on ne se posait pas du tout ce genre de questions, en effet.
Est-ce que vous pensez justement qu'on a une approche très générationnelle aujourd'hui de cette question? Précisément, ça change aujourd'hui parce que c'est aussi une nouvelle génération.
Oui,
et que
ça, j'en suis
persuadée. Nos parents, nos grands-parents avaient un autre rapport avec la viande.
Oui, j'en suis persuadée. Ils avaient un autre rapport avec la viande, la croyance qu'il fallait vraiment donner aux enfants beaucoup
du fer,
des abats, du fer, etc. Ouais. Et puis aux animaux, parce que nous oscillons là, entre deux questions, évidemment, la question alimentaire, de la viande, et puis la question des animaux. Oui. La formulation, d'ailleurs, manger de la viande ou manger des animaux, ne renvoie pas exactement au même type d'interrogation.
Aline Perraudin, c'est vrai qu'on renvoie souvent à nos souvenirs d'enfance autour de cette question-là aussi, et tout ce qu'on a appris.
Oui, puis on a pu avoir été élevé effectivement dans une culture très carnée. Ensuite, il y a aussi la diététique. On nous disait effectivement que la viande était indispensable. Encore dans le programme national Nutrition Santé, on dit d'en consommer une à deux fois par jour avec les équivalents, mais qui sont toujours des protéines animales. Donc on a l'impression que si on va quitter et abandonner la viande, on va peut-être manger déséquilibré et manquer de choses. Alors pour la viande stricte, on voit bien qu'on peut, surtout si on mange encore du poisson, on n'a pas de risque de carence. Mais c'est vrai qu'on est dans une société où la viande est importante et on en consomme moins aujourd'hui, pour aussi peut-être parce qu'elle coûte cher. Mmh. Depuis 98, on en consomme moins et on en consomme plus sous forme de produits préparés.
Joël nous dit, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes omnivores, les pandas végétariens sont en voie d'extinction, il y a une assez belle corrélation entre l'espérance de vie et la consommation de viande, et il serait temps de différencier la cause animale et la santé humaine, l'un n'excluant pas l'autre et vice-versa.
Omnivore, oui, mais alors j'ai toujours du mal avec cette question d'omnivore, parce qu'on ne mange pas de tout dans une culture donnée. On ne mange pas du chien en France, on peut en manger ailleurs. Le cheval en Angleterre passe pas très bien. Donc on est peut-être, on est capable de manger tout, pour autant, on peut faire des choix dans notre culture à un moment donné. Et la santé, quand on regarde se priver de viande, on voit que les régimes de longue vie, en fait, où c'est des régimes où la viande est n'est pas importante, en quantité importante, les régimes d'Okinawa méditerranéen. Donc, c'est pas forcément une exclusion totale, mais on peut très bien vivre et avoir une bonne santé sans manger beaucoup de viande.
Ouais. Laurence Burgal, le début des doutes sérieux, en tout cas, autour de notre contact avec la viande, c'est quoi? C'est la vache folle, précisément? Ce sont des scandales comme ça?
Vous voulez dire en France?
Ouais.
J'ai l'impression qu'il y a eu un tournant au moment de la vache folle dans les médias. Que avant cette date, les médias souvent traitaient par le mépris cette question animale et ne parlaient jamais de la question de l'élevage, de la boucherie, de l'expérimentation animale. Et j'ai l'impression que au moment de la crise de la vache folle, où on a montré les bûchers de cadavres de vaches, du coup un certain nombre de journalistes se sont intéressés à l'ensemble du processus et ont commencé à parler des conditions, à parler assez largement des conditions d'élevage des animaux. Et je crois que c'est le moment où le grand public a un peu découvert. Donc il y a eu à la fois des interrogations sur la santé des gens. Les gens sont interrogés, est-ce que c'est bien pour moi de manger de la viande? Et puis d'autres ont découvert aussi ce qu'il y avait derrière ce morceau de viande.
Ouais. Adine Pirodin, le scandale des lasagnes à la viande de cheval aussi, ça a été un nouvel épisode beaucoup plus récent celui-là.
Oui, parce qu'on a vu la filière aussi, puis on parlait de minerais, c'était quand même étonnant pour la viande. Donc on a découvert l'envers du décor, en fait. Et je crois que tout ça a participé. Mais je comprends que ce soit générationnel, parce que des gens qui ont, par exemple, connu la guerre, effectivement, la viande, c'était aussi important, comme la voiture. Enfin, c'était un accès à la consommation. Je crois qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose et qu'on peut-être manger ou se passer de viande, parce que aussi il y a des alternatives végétales. On en trouve de plus en plus aujourd'hui.
Catherine Rémy, ce message de Brice, je pense qu'il faudrait plutôt se poser la question de continuer à manger de la viande qu'on nous propose, mais soit de la viande industrielle, certainement pas. Des petits élevages familiaux, des petits abattoirs plus petits, voire mobiles à la ferme, permettraient d'abolir ces pratiques que je trouve révoltantes, les conditions d'élevage et d'abattage.
Oui, c'est une solution qui est proposée par certains, effectivement, de réassocier en fait les éleveurs à la question de la mise à mort, parce que de réassocier les personnes pour qui l'animal compte.
Ouais, mais vous pensez que c'est une solution, véritablement, pour d'abord échapper à la souffrance?
Alors, ce que je ne sais pas vraiment, je n'en sais rien, mais ce que je peux dire, quand même, ce qu'il faut souligner, c'est que, ça a été dit d'ailleurs avant, c'est que la mise à mort par saignée est une mise à mort qui contient une forme de violence. Donc, il ne faudrait pas avoir une vision idéale et naïve de ce qu'est la mise à mort. La mise à mort a toujours contenu, la mise à mort pour la viande, hein, je veux dire, une dimension violente. Donc, effectivement, on n'éradiquerait pas cette violence-là, mais peut-être qu'on atténuerait en tout cas.
Florence Burga.
Alors moi je suis très surprise de cette proposition parce que elle ne peut être tenable que s'il y a l'industrie et à côté des éleveurs qui vont chacun, selon les modalités qui leur plaisent, égorger leur animal. Donc on revient à une situation où il n'y aura plus aucune possibilité de contrôle et il faut bien voir que si nous pensions qu'il faut opter pour cette solution, ça veut dire que la consommation de la viande va considérablement baisser. Ou alors on aura la France entière qui va se transformer en abattoir de plein air. Si on imagine tous les animaux aujourd'hui abattus à la chaîne dans les abattoirs pour conserver notre niveau de consommation, si tout ça se fait librement par chacun à la ferme, c'est dément.
En tout cas, ce modèle n'est viable que s'il y a une baisse considérable de la consommation de la consommation de viande.
Et que ce soit des abattoirs mobiles et non pas chaque personne. Enfin, moi je suis pas du tout favorable à ça parce qu'il n'y aura plus aucun contrôle.
Ouais.
évidemment.
Écoutons la députée de Haute-Vienne, Marie-France Pérol-Dumont, qui s'exprimait sur Public Sénat en octobre 2015.
Ce genre d'annonce est toujours extrêmement, j'allais dire, inquiétante. Et je crois qu'il faut être très attentif, et c'est aussi le rôle des médias que d'être très attentif dans la présentation des dossiers. Oui, il faut sans doute faire attention à ces modes de consommation de viande. Oui, il faut sans doute faire attention aux modes de cuisson, mais pour autant, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'il y a des questions alimentaires, les questions de santé, il y a aussi les questions économiques liées à la production de viande, et dans un bassin comme le mien, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de manger une entrecôte de bœuf limousin matin, midi et soir, mais d'en manger raisonnablement deux ou trois fois par semaine. Je ne pense pas, et c'est d'ailleurs ce qui semble ressortir des études, que cela puisse porter préjudice à la santé. Il faut être, bien sûr, avoir des précautions alimentaires. Je crois que la qualité de l'alimentation de chacun, la qualité de son mode de vie fait beaucoup pour sa santé, mais il ne faut pas lancer des propos trop alarmistes a priori. De surcroît, les conditions d'élevage des animaux sont très importantes. Dans un département comme le mien, nous avons une production de viande extrêmement éthique. Nous n'avons pas d'élevage intensif, c'est un élevage de qualité sur des petites parcelles. Donc la qualité des viandes est préservée. Donc je ne pense pas que sur ces productions-là, il faille avoir trop d'inquiétudes.
Alors, Marie-France Pérol-Dumont, qui répondait au sujet de la publication, justement, par l'OMS et The Lancet, de l'aspect cancérogène probable pour l'homme de la viande rouge, qui avait été classée donc en octobre 2015 dans cette catégorie, avec également la viande transformée, qui incluait la charcuterie et les plats cuisinés, avérés cancérogènes. De la viande éthique, est-ce que vous y croyez vraiment, Florence Burga?
Non, ça me semble vraiment un oxymore, évidemment. Faire engraisser un animal et sitôt qu'il a atteint le poids d'abattage, le tuer, je vois pas, il n'y a pas de relation éthique là-dedans. Il peut y avoir des bonnes pratiques d'un métier, mais pas d'éthique.
Catherine Rémy?
Je pense en tout cas que aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce modèle-là, mais effectivement, il y a des choses peut-être intéressante à creuser sur cette implication des éleveurs, d'éleveurs qui ne seraient pas dans l'intensif évidemment, qui seraient dans un autre rapport à l'animal, et effectivement de les associer à cette question de la mise à mort, c'est peut-être une voie intéressante à explorer.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec beaucoup de messages pour vous. Vous pouvez poursuivre d'ailleurs en nous rejoignant sur franceinter.fr. Never the same, but I leave it in the fast lane. Don't hold back, never the same. Just watch it all roll in. Just watch it all roll in. See what remains when it's unfolding. Never the same. Et c'est comme Claude à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, faut-il continuer à manger de la viande? Donc, question posée aujourd'hui dans la tête au carré avec beaucoup de messages. Karine qui nous dit ceci, j'aime la viande, je voudrais un autocollant pour le revendiquer parce que je me fais sans cesse culpabiliser d'en manger. Est-ce qu'on ne joue pas trop à chatouiller la sensibilité accrue humaine? L'abattage n'a jamais été une partie de plaisir. Heureusement qu'il n'y a pas de compassion, sinon ce serait s'infliger une torture mentale. Catherine Rémy, qu'est-ce que vous répondez à Karine ?
Je lui réponds qu'au niveau de la souffrance des hommes, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de compassion qu'ils ne souffrent pas. Et ce que j'ai vu dans les abattoirs, c'est effectivement des personnes qui ont beaucoup de difficultés à réaliser leur métier et que très souvent, quand justement il y a eu tous ces débats autour de la violence, cette violence, elle apparaît très souvent, moi c'est ce que j'ai pu observer, quand l'animal résiste, quand l'animal ne se comporte pas comme on le veut. Et donc quand quelque part l'animal rappelle qu'il est intelligent, qu'il rappelle qu'il a une sensibilité, etc. Et les humains, à ce moment-là, sont très déstabilisés. Donc je pense que, voilà, ils n'ont pas de compassion, mais ils souffrent quand même beaucoup.
Jérôme nous dit, on oublie de dire que les vidéos qui ont mis ce sujet sur le devant de la scène ont été tournées par des activistes qui ont monté leur rush pour montrer ce qu'ils voulaient faire. Je ne nie pas l'existence de ces maltraitances, je trouve juste qu'on en fait beaucoup parce qu'on concentre les mauvais gestes en supposant que ces images sont la norme dans les abattoirs. Ce qui est faux, dit Jérôme. Florence Burgard.
Alors on aimerait savoir pourquoi Jérôme nous dit que c'est faux. Peut-être il en sait beaucoup plus long que tout le monde. Je trouve scandaleux de dire qu'il s'agit de rush. Il y a beaucoup d'autres témoignages. Et d'autre part, il ne sait pas, parce que c'était laissé garder secret par L214, comment ces images ont été obtenues. Donc on ne sait pas du tout si ce sont des activistes, comme il dit, qui les ont tournées.
Oui. Catherine Rémy, vous, vous avez passé suffisamment de temps dans les abattoirs
voilà,
pour pouvoir
moi j'ai passé plusieurs mois dans les abattoirs. Donc effectivement, il y a des moments où la réglementation est bien appliquée, où il n'y a pas de violence, mais il y a des moments où les hommes basculent dans la violence. Et je l'ai vu de manière récurrente sur mon terrain.
Florence Burga, pourquoi arrêter de manger de la viande? Il y a plusieurs raisons qui sont... Alors évidemment, la question de la souffrance animale, on l'a abondamment évoqué. Les raisons de santé aujourd'hui, alors produits probables cancérogènes pour l'homme, la viande rouge, ainsi que la viande transformée, ça c'est une autre raison, tout l'aspect sanitaire, alors, on parlait de la vache folle tout à l'heure.
Oui, je pense qu'il y a un petit pourcentage de végétariens qui le sont pour des raisons de santé et qui de temps en temps peut-être mangent de la viande, voilà, alors que bien sûr la décision éthique et rationnelle impose une sorte de limite constante. Et puis il y a évidemment les questions environnementales, les questions de répartition des terres, tous ces aspects-là.
Alors Aline Perraudin, parmi ces raisons, effectivement, l'aspect environnemental, ça vous a motivé aussi, vous, dans votre démarche d'arrêter d'en manger de la viande?
Oui, en fait, quand surtout le rapport des Nations Unies qui montrait, je trouvais que c'était, on ne disait pas que les gaz, l'élevage contribuait à hauteur de 14,5%.
C'est quoi le méthane, c'est ça?
Oui, des gaz à effet de l'émission des gaz à effet
de méthane.
Donc c'est, et puis toutes les pollutions, enfin autres, et l'espace aussi, donc un tiers des terres cultivées servent au bétail. Donc quand on voit effectivement l'évolution de la population humaine, comment on va nourrir tout le monde, c'est une vraie question que posent les Nations Unies et comme alternative propose notamment les protéines végétales. Certains disent les insectes, mais peut-être les algues. Donc on voit bien qu'il faudra certainement changer pour avoir une alimentation durable notre modèle. Les raisons de santé, de réduire certainement, de là à dire d'arrêter totalement, c'est moins certain. Une faible consommation de viande, le blanc de poulet n'a tué personne, surtout dans les viandes, c'était les viandes rouges et pas les volailles.
Absolument.
Et manger un blanc de poulet n'a tué personne, si ce n'est le poulet. C'est pour ça que je crois que c'est plus pour des raisons éthiques.
Alors justement, pour cette question que vous évoquez, comment produire suffisamment de nourriture pour nourrir une population toujours croissante dans le futur, il y a une étude très récente dont on s'était fait l'écho dans l'émission il y a quelques jours à peine, avec des chercheurs autrichiens qui avaient mené des simulations de production alimentaire. Et selon donc leurs résultats, le déterminant principal de ce défi, c'est le régime alimentaire de la planète, avec leurs différents scénarios. 15% des scénarios basés sur un régime classique à base de viande sont jugés réalisables d'ici 2050, donc pour donner à manger à tout le monde, alors que 100% de ceux basés exclusivement sur la nourriture végétale sont envisageables durable, et ce, sans raser la moindre parcelle de forêt supplémentaire. Donc c'est intéressant, déjà ça donne une bonne indication sur cette question, en tout cas de la nourriture à l'échelle humaine, hein, à l'échelle planétaire.
Et je crois que ça montre aussi, en lien avec toutes les discussions qu'on a depuis tout à l'heure, que cette question, elle est historiquement située. C'est-à-dire que recourir au modèle paléolithique pour défendre notre industrie de la viande aujourd'hui, ça n'a aucun sens.
Écoutons le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, en octobre 2014.
Derrière cette filière, il y a à peu près 500 000 emplois. Il y a d'ici 2018 un besoin de 20 000 emplois. Il y a un savoir-faire, une formation qui est nécessaire et des carrières à faire dans cette filière. Et c'est aussi ça le message. À un moment où d'ailleurs les producteurs et les éleveurs connaissent des difficultés à cause de la baisse du prix, moi je voudrais dire qu'avec 5,8 millions de tonnes de viande consommée en France, premier producteur, on a là une grande filière sur laquelle on doit compter et une filière surtout qui est prête à ouvrir ses portes pour des jeunes qui ont envie de se construire une carrière professionnelle, qui ont là l'occasion de valoriser des savoirs, de valoriser aussi les goûts et de participer à la gastronomie française, car la viande fait partie de cette grande et belle gastronomie. Je l'ai dit, découper la viande comme on la découpe en France, c'est unique au monde.
Voilà, la découpe de la viande unique au monde. Cette phrase, Catherine Rémy, elle vous intéresse? C'était à l'occasion de l'inauguration du village Made in Viande par Stéphane Le Foll.
Oui, mais effectivement, enfin, j'entends l'argument qui consiste à dire qu'il y a des gens qui travaillent dans cette filière et qu'effectivement, il faut aussi penser à eux. D'ailleurs, ça me permet de dire que suite au scandale donc des vidéos sur les abattoirs, moi, j'ai été un petit peu choquée, c'est le cas de le dire, de la façon dont sur les réseaux sociaux, on pouvait parler de ces ouvriers d'abattoirs en les traitant de monstres, de bourreaux, etc. Là, je crois que là, il y a une incompréhension totale de la situation. C'est le dispositif lui-même qui est porteur d'une violence et qui fait que ces personnes vont basculer dans la violence. Ce n'est absolument pas parce qu'elles sont des personnes déviantes. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment quand même garder notre...
Du reste, l'association L214 était allée tout à fait dans votre sens, Catherine. On avait dit à Brigitte Gauthier, mais ces gens sont des monstres. Elle avait dit, mais pas du tout, nous sommes collectivement responsables de l'existence des abattoirs.
Tout à fait.
Ce message d'Hélène, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir les races d'animaux d'élevage disparaître si tout le monde devient végétarien? En effet, qui s'occupera de ces animaux s'ils ne sont plus commercialisables? Florence Burga, question souvent posée. Hein.
Alors les animaux d'élevage qui naissent de l'insémination artificielle de façon planifiée. Ils naissent parce qu'on va les tuer dans X jours ou X semaines. Je suis toujours frappée de voir que c'est comme si on ne pouvait pas inventer d'autres relations aux animaux que celles qui passent par la mise à mort. Donc on peut tout à fait imaginer l'existence d'animaux qui seront évidemment moins nombreux, mais la question c'est pas d'en avoir forcément beaucoup, mais avec lesquels on aura une autre relation que celle de la boucherie.
Mais il est vrai que si on n'a pas une relation d'utilité, on ne voit pas quand même...
On n'arrive pas à imaginer autre chose.
On n'arrive pas à imaginer autre
ça,
chose aujourd'hui, puisqu'on imagine l'élevage, on les élève pour les manger.
Jack nous dit 12 000 litres d'eau consommés pour chaque kilo de viande produit, plus le méthane et le CO2, mauvais bilan énergétique, et le calcul est simple, donc pour arrêter de manger de la viande. Et puis Jean-Christophe, végétarien depuis 5 ans, vegan depuis 2 ans et demi, je suis en pleine santé, je fais du sport, je ne suis plus malade, il faut arrêter avec les faux arguments, nous ne sommes pas supérieurs aux animaux, ils ont autant le droit de vivre que nous, c'est pour cette raison, et aussi pour la planète, que je ne mange plus de viande et de produits animaux. La nourriture végé est riche et variée, et répond à tous les besoins nutritionnels à tous les âges. Annie Perraudin, petite réserve.
Sur le végétalisme, oui, parce qu'il faut se supplémenter, notamment en vitamine B12, qu'on trouve que dans la viande et les produits animaliers.
On termine là-dessus avec un renvoi sur vos ouvrages. Catherine Rémy, donc une ethnographie de la mise à mort des animaux, Economica. Et puis Florence Burga, le droit animalier aux presses universitaires de France. Et Aline Perraudin, 100 jours sans viande. Une expérience aux éditions Flammarion. Merci beaucoup à toutes les trois. Fabrice Rouel, bonjour.
Bonjour. Que nous dit l'Europe sur l'abattage des animaux? Elle doit bien nous dire quelque chose. Elle dit quelque chose de tout. On va parler de l'Europe, justement. Et du traité de Maastricht, voté le 20 septembre 1992. Et nous en parlerons avec notre invité Jean Quatremer, journaliste à Libération, notre partenaire.
À tout à l'heure, Fabrice.